RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. Nous nous retrouvons autour de nos réflexions sur la doctrine politique et sociale de l'Église. Tout ceci me paraît merveilleux, peut-être même un peu trop beau. Y aurait-il une forme sociale que nous n'aurions pas encore découverte? Un art de vivre ensemble qui nous échapperait?
Donc si nous reprenons notre discussion de la dernière fois, on a évoqué la place tenue par Dieu dans le gouvernement des hommes et la nécessaire distinction entre le temporel et le spirituel. Souviens-toi, Yann, nous avons vu rapidement que le fait spirituel s'impose sur l'humanité, mais dans la foulée, j'ai tendance à penser que si tel est le cas, nous devrions donc avoir dans nos schémas, dans nos cartons, le schéma d'une société idéale. Oh, je te vois grimacer.
Oui, bien sûr. Quand je te vois, j'ai pas l'impression d'avoir l'homme idéal.
Ah bon?
Oui, et pas plus que je ne le suis, parce que malheureusement nous sommes marqués d'un sceau qui nous tient à la peau, et le péché originel fait que la société idéale est loin d'exister. Par contre, l'Église nous donne un certain nombre d'indications pour faire en sorte qu'il soit le moins difficile possible de vivre ensemble, comme disent nos politiciens aujourd'hui. Et effectivement, l'Église, qui notamment s'intéresse à tout ce qui est spirituel, surnaturel, au-delà, est très, très, très soucieuse et manifeste un grand intérêt pour les questions politiques et sociales. Puisque nous vivons en société, et l'Église, si elle s'y intéresse, c'est qu'elle ne le fait qu'en vue des biens spirituels, non pas pour simplement améliorer notre pouvoir d'achat ou faire en sorte que les impôts baissent. Ce n'est pas sa préoccupation. Les principes que la doctrine de l'Église en matière politique et sociale diffuse a été, je crois, très très bien décrit par Saint Ignace de Loyola, où il met les choses en ordre quand Saint Ignace dit dans ses exercices « L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu ». Sa finalité, elle est là. Louer, servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen, c'est un moyen, sauver son âme. Et les autres choses sur la surface de la terre, continue-t-il, ont été créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de sa fin.
Mais je suis quand même libre d'appliquer ces principes. Je suis quand même libre, j'ai pas la contrainte. Trop souvent, est-ce que tu peux, Yann, nous préciser cette notion de liberté, justement de la personne humaine, qui est trop souvent présentée comme étant l'affranchissement de toute contrainte?
Oui, je fais ce que je veux. C'est pas de la liberté, ça. C'est de l'enfantillage. J'ai pas envie. C'est la chanson que j'entends à la maison avec mes petits-enfants. J'en ai un certain nombre, mais je m'aperçois que... c'est toujours... J'ai pas envie, je veux pas. La liberté, c'est pas de faire ce que je veux. La liberté, c'est de choisir les moyens qui me permettent d'atteindre la fin pour laquelle je suis fait. D'atteindre ma perfection. Ma perfection d'homme... Sur terre, c'est de me préparer à la vie éternelle. Quels moyens dois-je utiliser? J'ai le choix de différents moyens. Et cette liberté, entendue dans un sens chrétien, un sens catholique, c'est effectivement la possibilité de choisir les moyens qui vont me permettre d'atteindre plus facilement à ma fin.
Même si ces moyens sont une contrainte.
Mais même si ces moyens sont une contrainte.
Comme par exemple le sportif, je dirais qu'il s'astreint à une vie ascétique, un petit peu.
Oui,
devient plus libre que moi, qui n'est pas la même ascèse, pour une performance sportive. Et on peut avoir les mêmes images, les mêmes parallèles, par exemple dans le monde de l'entreprise ?
Il n'y a pas de liberté concrète, de pouvoir concret qui ne soit acquis sans contrainte. Si je veux parler une langue, je dois m'astreindre à m'entraîner, à me contraindre. Et d'ailleurs, pour rendre ça plus facile, d'ailleurs, je me mets sous l'autorité d'un professeur qui va m'aider. L'autorité est une aide à l'acquisition de liberté. Le sportif, il se met sous l'autorité d'un coach. Le coach n'est pas aussi compétent que le sportif. Et autrement, il serait le champion lui-même. Moyennant quoi, le coach va l'aider à supporter les contraintes. On retrouve ça dans l'entreprise. La contrainte qui est de servir un client, c'est la condition d'existence, c'est le bien commun de l'entreprise, le service client, va nous imposer des contraintes. Et je pense qu'on pourrait prendre d'autres exemples dans le domaine de la famille, dans les différents domaines de la vie sociale.
Peut-être pouvons-nous voir si dans l'art musical, il n'existe pas quelques contraintes. Alors profitons d'une minute harmonieuse et nous nous retrouvons dans quelques instants. Eh bien, nous retrouvons Yann et Michel et sans contrainte, nous poursuivons notre discussion autour de la liberté de poursuivre nos objectifs. Alors,
pendant la petite pause musicale, Yann, on évoquait effectivement ces contraintes qui peuvent s'appliquer dans le monde de l'entreprise et on parlait plus particulièrement du port d'équipement de protection.
C'est un exemple qui est très 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 concret parce que imposer le port des EPI, des équipements de protection individuelle, lunettes de sécurité, bouchons d'oreilles, chaussures de sécurité, c'est en fait permettre à la personne de pouvoir maintenir son intégrité physique.
De rester en vie.
De rester en vie. Et donc, effectivement, c'est une contrainte qui va peut-être même se faire sous la menace de sanctions. Et qui doit se faire sous la menace de sanctions si la personne refuse. Mais une objection irréfléchie, sans motif, au port des EPI. C'est un exemple concret.
Donc ça montre bien que cette notion de liberté telle qu'elle est défendue par l'Église, c'est pas un affranchissement des contraintes. Est-ce que tu aurais d'autres exemples dans le domaine de l'éducation, par exemple ?
L'éducation, on retrouve la même chose avec l'apprentissage avec les enfants. La manière d'apprendre aux enfants la tenue, d'apprendre la politesse, d'apprendre autant de données qui vont permettre à l'être humain de mieux atteindre la fin de l'être humain, à savoir qu'on n'est pas des bêtes, on est des hommes, des femmes, et que le fait d'apprendre à l'enfant impose un certain nombre de contraintes, tant pour l'enfant d'ailleurs que pour les parents, parce que c'est lassant de répéter toujours la même chose et de remettre ça. Donc effectivement, je serais beaucoup plus libre si je laissais faire l'enfant ce qu'il voulait.
Et ce qui est intéressant, c'est que le respect de ces contraintes vis-à-vis de l'éducation de l'enfant permet également, lui, de grandir, d'être libre, mais également à ses frères et sœurs de grandir en liberté parce qu'ils ne supportent pas le non-respect de contraintes de leurs frères ou de leurs sœurs.
On a là, en modèle réduit, quand on dit que la famille est la première société, la première cellule sociale, on a là en réduit le modèle social. Car effectivement, le fait que mon frère se conduit bien, je vais avoir une vie plus agréable et ça sera beaucoup plus facile de vivre ensemble pour reprendre le leitmotiv dont on nous rebat les oreilles.
Donc ça, c'est un petit peu l'idéal. Et comme l'idéal, je dirais, malheureusement, ne peut pas être atteint, nous n'avons pas de société idéale.
On n'a pas de société idéale, mais on a un indicateur, un guide qui va nous permettre justement de rectifier le tir, de nous rappeler à l'ordre. Et c'est ce à quoi prétend l'Église.
Le fameux décalogue.
Et notamment par le décalogue, qui, je le rappelle quand même, ne date pas de l'Église. Il est antérieur. Et ça montre bien que la doctrine de l'Église en matière politique et sociale, elle est bien antérieure à Léon XIII, pour faire référence aux gens qui parlent de doctrine sociale avec Rerum Novarum au XIXe siècle.
Nous avons vu dans les émissions précédentes, effectivement, cette constance qu'on peut avoir dans l'enseignement de l'Église et bien avant l'Église. C'est donc clair pour moi, Yann, et cela me rassure parce qu'il n'y a pas de société idéale, mais comme nous l'avons vu, des principes à respecter. C'est même réconfortant intellectuellement pour moi de penser que Dieu nous a créés libres de faire de belles choses, mais aussi malheureusement de grosses bêtises, pour être poli, comme on en voit tellement aujourd'hui. On aura l'occasion dans les prochaines émissions de rentrer dans certaines de ces bêtises, mais avant tout, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission, au cours de laquelle nous reprendrons une synthèse de tous les premiers principes que nous venons de voir pendant ces 8 premières émissions.
Eh bien, rendez-vous est pris, et je compte sur vous pour cette synthèse.